Bonsoir. Donc, je vais commencer par remercier le docteur Nicole Catlin d'être venu de Poitiers pour cette conférence. Et puis, donc, je vais vous la présenter. Donc, Nicole Catlin est pédopsychiatre au centre Henri Laborie à Poitiers. Elle est responsable du centre de référence pour les troubles du langage et des apprentissages. Et elle travaille avec l'éducation nationale depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans. Et Madame Catlin a publié plusieurs ouvrages, dont une psychopathologie de la scolarité. Et plus récemment, Souffrance à l'école, qui est paru chez Albin Michel, qui est la version grand public de psychopathologie de la scolarité, qui s'adresse peut-être davantage aux professionnels. Et donc pour ce soir, il va être question de souffrance à l'école et plus particulièrement du harcèlement scolaire et peut-être des choses aussi qui sont liées. Voilà. Et donc pour discuter cette conférence, alors bien sûr, nous comptons sur les échanges avec vous qui sont toujours très très riches. Et donc nous avons donc Jean-Michel Coq qui est psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Rouen, et moi-même Catherine Vesman-Arcache, psychologue, maître de conférences habilité à diriger les recherches en psychologie clinique à l'Université de Rouen. Voilà, donc je vous donne tout de suite la parole.
Merci à tous d'être venus si nombreux. Voilà, peut-être pour vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à la thématique du harcèlement scolaire. Donc en fait, comme ça a été dit, je travaille avec l'éducation nationale depuis très longtemps parce que j'ai toujours considéré que les enfants passaient le plus clair de leur temps à l'école et qu'en tant que pédopsychiatre, le bien-être à l'école faisait partie aussi des choses qui devaient nous préoccuper. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à ces pathologies-là de l'école. Donc assez naturellement, je suis arrivée, peut-être qu'on pourra en parler, sur les phobies scolaires, mais aussi sur le harcèlement parce que je recevais finalement beaucoup d'enfants qui se plaignaient que ça se passait mal avec leurs camarades à l'école. Les deux types de demandes qui étaient faites, c'était essentiellement autour des apprentissages et puis bien sûr au niveau des relations sociales avec les autres. Il se trouve que j'ai une période aussi de prédilection dans cet âge de la scolarité qui sont les tout jeunes adolescents, ceux qui font suer tout le monde, mais moi j'adore cette période-là, les 11-15 ans, là, vraiment quand ils commencent à sortir de l'enfance et à rentrer dans l'adolescence. Et surtout, je me suis vite rendu compte que le collège était un temps à haut risque pour eux, parce qu'ils cumulent toute l'hétérogénéité du développement adolescent. Et chacun sait bien que le collège reste quand même un peu le moment où on trie, entre guillemets, les élèves entre ceux qui vont faire des études longues, basées sur l'abstraction, et ceux qu'on va diriger un peu précocement vers des choses plus concrètes, avec des orientations professionnelles. Et toujours en tant que pédopsychiatre, je pensais que c'était notre rôle de s'intéresser à cette période-là. Malheureusement, quand on reçoit des jeunes adolescents entre 11 et 15 ans et qu'en psychiatre formé à la psychodynamique, on essaie de leur demander ce qui leur arrive et ce qui se passe dans leur tête, ils vous disent je sais pas, ou ils n'ont pas envie de répondre, ou ils ne veulent pas dépendre d'un adulte pour faire une psychothérapie. Et donc, je me suis surtout intéressée à tout ce qui pouvait constituer une autre approche, et j'ai beaucoup travaillé sur les groupes thérapeutiques. Donc, vous voyez comment les choses sont articulées un petit peu dans ma manière de voir. C'est-à-dire que d'une part, je recevais des enfants qui me disait que ça se passait pas bien avec les autres, et d'autre part, moi je mettais en place des groupes thérapeutiques, et donc je me suis beaucoup intéressée au groupe, à ce qui se passait dans le groupe. Et en croisant ces deux centres d'intérêt, je me suis vite rendu compte qu'on pouvait, dans beaucoup de cas, considérer que le harcèlement scolaire était peut-être lié à un échec de la dynamique de groupe, en tout cas pour ce qui concerne cette partie du développement de l'adolescent. Alors, je ne nie pas du tout le fait qu'il y a des enfants très sérieusement perturbés, gravement perturbés, qui ont de bonnes raisons de s'en prendre à d'autres, nous sommes d'accord. Mais la plupart du temps, ce sont simplement des enfants qui traversent une période de turbulence dans leur développement, que l'on met en groupe sans tellement se préoccuper de comment ça se passe dans le groupe, et que si on y regardait de plus près, on éviterait un bon nombre de situations. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé la chose. À partir de là, j'ai écrit un premier livre en 2008, chez Albin Michel, qui a eu un petit succès d'estime, parce que voilà, mon éditrice m'a fait intervenir dans plusieurs radios, télévisions et autres. Mais ça n'a pas beaucoup pris. Si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer aussi qu'il y a parfois des causes qui arrivent au devant de la scène parce que c'est le bon moment. Et d'autres causes qui sont tout aussi intéressantes qui n'arrivent pas au devant de la scène parce que ce n'est pas le bon moment. Donc en 2011, Éric Debarbieux, qui était le directeur de l'Observatoire international de la violence, qui lui s'est toujours beaucoup intéressé à tout ce qui concerne la violence en milieu scolaire. C'était, excusez-moi, il a d'abord commencé sa carrière en tant qu'instituteur, il tient beaucoup à ce titre pendant 18 ans, puis il est devenu chercheur et donc il a fait de la sociologie, il est devenu professeur en sciences de l'éducation. Et il a toujours dénoncé les violences au niveau de l'école. Et en 2010, il y a eu des assises de la violence à l'école. Et on lui a commandé une enquête qu'il a réalisée avec l'UNICEF. Et c'est cette enquête qu'il a complètement époustouflée, dont il est ressorti effrayé en disant « mais c'est pas possible ce que j'ai vu ». Par ailleurs, il avait des articles qui avaient été publiés en Amérique et dans d'autres pays, et ça croisait vraiment tout à fait ce qu'il avait pu observer en France. Il s'est rendu compte qu'il y avait entre 1 à 10, qu'il y avait 10%, voire presque 20% des enfants qui pouvaient souffrir de harcèlement à l'école. Et il s'est rendu compte aussi des conséquences la vie durant, puisque les anglo-saxons, les nord-américains, les allemands et d'autres avaient déjà fait des études longitudinales en suivant des enfants sur 30 ans et s'étaient rendu compte qu'il y avait des conséquences sur les 30 années. Et donc, ce rapport est sorti, a été remis à Luc Chatel, qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il y avait des assises qui devaient se tenir. Et Éric Debarbieux a été chercher tous les gens qui avaient réfléchi au harcèlement. Et étant une des rares à l'époque à avoir publié des choses et avoir un peu mis en forme un peu ma pensée, je me suis trouvée embarquée dans l'aventure. Voilà. Et je suis devenue un peu, malgré moi, la spécialiste de cette situation parce que j'avais été un peu en avance pour réfléchir. Voilà, je pense que maintenant il y a d'autres pistes à explorer. J'en dirai deux mots sur le cyberharcèlement, qui est quelque chose qui se développe énormément. Moi j'ai beaucoup travaillé, vous l'avez compris, sur ce qui se passe en face à face à l'école, parce que je connais bien ce milieu-là. J'ai beaucoup travaillé avec les enseignants, je connais bien les groupes d'enfants. Le cyberharcèlement, c'est encore autre chose, c'est un champ que je commence à explorer et qui est, voilà, j'en dirai aussi deux mots. Voilà, mais tout ça pour vous dire que je suis devenue un peu malgré moi le spécialiste, puisque du coup Luc Chatel m'a demandé de faire le guide donc de prévention du harcèlement qui est en ligne depuis 2011 et que du coup on m'a demandé d'écrire le petit que sais-je sur le harcèlement scolaire, etc., etc. Voilà, donc pour vous expliquer un peu comment est venu mon intérêt pour cette thématique et comment je suis un peu maintenant amenée à venir faire un certain nombre de conférences devant vous. Donc c'est un sujet qui à mon avis mérite d'être encore certainement travaillé parce que les formes de harcèlement se modifient beaucoup. Et je pense que les réseaux sociaux en particulier sont particulièrement importants et on s'est rendu compte aussi que la gravité des harcèlements sur le net était beaucoup plus importante qu'en face à face puisqu'il y a énormément de suicides aboutis chaque fois qu'il y a du harcèlement sur le net. Il y en a une quinzaine à peu près. Par à peu près, enfin entre 10 et 15 par an, ce qui est en France, ce qui est beaucoup. Voilà, hein, ce qui est vraiment beaucoup. Voilà, donc pour reprendre un petit peu quelque chose d'un petit peu plus théorique, en fait, ces phénomènes de harcèlement, ils ont été repérés, donc bien avant qu'en France nous en occupions, bien avant qu'Éric Debarbieux soit directeur de l'Observatoire international. En fait, ça a débuté dans les années 70. en Norvège et en Suède, un monsieur qui s'appelait, je pense qu'il est décédé maintenant, Dan Olweus, qui était psychologue de formation et qui travaillait en fait sur le suicide des adolescents. C'est les toutes premières publications qui sont sorties sur le suicide dans les années 70. Et parmi les facteurs de suicide, il a trouvé le harcèlement. Et c'est lui qui a donné la première définition, qui a été complétée quelques années après par un autre psychologue, Peter Smith, qui était britannique. Et donc la première définition de Dan Olweus, c'est une conduite intentionnellement agressive qui se répète et qui dure dans le temps. Et lui a fait de cette répétition quelque chose qui justement était à l'origine de l'attaque de l'estime de soi et qui était un facteur primordial dans ce harcèlement. Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes, hein, parfois, sont soumis à des critiques, mais c'est le fait qu'elles soient répétées, quasi quotidiennes, qui était un facteur de risque. Et puis, Peter Smith, quelques années après, a dit « Oui, c'est vrai, ça c'est important, mais il y a encore quelque chose qui est encore plus important, c'est le rapport dominant-dominé, d'emprise, qui s'établit, avec l'incapacité pour la victime de s'en sortir tout seul. » Voilà. Donc, maintenant, c'est les trois critères qui sont admis. Et pour le cyberharcèlement, j'en parle maintenant, j'en reparlerai un petit peu après, on est un peu ennuyé parce que, finalement, le facteur de répétition, il n'est pas nécessaire qu'il y soit. Il pourrait être, entre guillemets, avantageusement remplacé par le fait qu'il y a une multitude de gens qui voient la même chose en même temps. Donc on pourrait au fond dire que ça serait plus le fait que ce soit vu par d'innombrables personnes qui pourraient remplacer le critère de répétition. L'intentionnalité agressive, on ne sait pas trop comment la situer parce que ce n'est pas tellement là-dessus que le phénomène semble grave. C'est surtout sur le fait que il y a beaucoup d'anonymat, que la personne ne connaît pas du tout les personnes qui l'ennuient, puisqu'il y a 300-400 personnes qui peuvent à leur tour venir dire des choses affreuses sur une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est plutôt l'anonymat, j'allais dire, qui serait peut-être un facteur. Voilà. Quant à la relation dominant-dominée, oui, elle existe toujours quand, par exemple, il y a des choses du genre « le monde serait mieux sans toi »,« tu ferais mieux disparaître », etc. Où là, il y a vraiment une situation d'emprise. Là, ce critère-là pour en effet être resté. Et puis, il y a aussi une emprise au corps de la personne quand on montre des photos intimes. Là, il y a une vraie emprise au corps de l'autre. Et donc, voilà, on pourrait dire que pour la définition du cyberharcèlement, il y aurait des choses à modifier, mais qu'on retrouve quand même des éléments qui ne sont pas si éloignés que ça, que la première définition de Dan Olweus et de Peter Smith. Donc en termes de chiffres, hein, dans tous les pays de l'OCDE, c'est à peu près les mêmes. Alors vous allez me dire, c'est presque du simple au double. Le problème, c'est qu'on ne fait pas du tout les mêmes enquêtes sur les mêmes tranches d'âge. Or déjà, on sait que le harcèlement est plus important chez les plus jeunes, à partir du CM1, CM2, 9 ans, 10 ans, et qu'à partir de 15-16 ans, ça diminue. Toutes les formes de violence, globalement, diminuent à partir de 15-16 ans. C'est la règle. Marie Choquet l'avait montré dans ses enquêtes épidémiologiques à partir de 1994. C'est la règle parce qu'en effet, les enfants ont bien d'autres manières de régler leurs conflits. Ils ont accès à capacité d'abstraction, au langage. Ils ont acquis aussi une autre forme de stabilité dans leur relation avec leur corps. Les grands bouleversements de l'adolescent au niveau corporel sont en train de se tasser un petit peu. Ils accèdent à d'autres modes de fonctionnement et globalement, toutes les violences diminuent à partir de 16 ans, globalement à partir du lycée. Donc, ça n'est pas étonnant que le harcèlement diminue à partir de là. Donc, c'est pareil. Quand vous avez des enquêtes, vous ne savez pas toujours si on a fait des auto-questionnaires à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans ou à 14 ou 15 ans. Donc, c'est pour ça que ça peut être du simple ou double. Par ailleurs, ce sont toujours des auto-questionnaires. Dans les auto-questionnaires, vous savez qu'il y a un biais. Il y a un biais de désirabilité. Hein, est-ce qu'on va répondre ce qu'on croit que l'autre attend? Ou est-ce qu'on a bien lu la question? Ou est-ce qu'on a été jusqu'au bout de la question avant de cocher la croix, etc., etc. Donc les auto-questionnaires, c'est toujours source un petit peu de difficultés. Mais si on enlève ces biais, on peut dire que globalement, il y a entre 10 à 15% vraiment des enfants qui sont victimes ou harceleurs, ou les deux à la fois. Parce que il y a à peu près 8, 8 à 9% de victimes, il y a 4 à 5% de harceleurs, et il y en a qui ont le double statut, passant de l'un à l'autre. Alors on se dit victime harceleur, on peut comprendre, hein, bon, il en a assez d'être victime, il va jouer à son tour les harceleurs. Ce qu'on comprend moins, c'est harceleur victime, on va en parler tout à l'heure, mais ça existe aussi. Il y a des harceleurs qui deviennent victimes à leur tour. Et ce que j'aurais moi beaucoup aimé faire, mais ça paraît un petit peu compliqué, c'est voir aussi la continuité qu'il y a après à l'âge adulte, parce qu'il y a vraisemblablement des liens. En tout cas, les médecins du travail que je connais me disent que quand ils ont des gens qui ont été soit harceleurs, soit victimes, ils ont des passés, ils ont dans leur passé des situations de harcèlement, soit dans un camp, soit dans l'autre, soit dans les deux. C'est-à-dire, c'est pas linéaire, c'est pas une victime qui va être victime à l'âge adulte. Ça peut être des victimes qui deviennent harceleurs à l'âge adulte ou des harceleurs enfants qui deviennent victimes à l'âge adulte. Voilà, donc il y a vraisemblablement un lien, et c'est ce que montrent les enquêtes longitudinales aussi, et c'est relativement intéressant. Donc tout ça pour vous dire que c'est important en termes de nombre, c'est important en termes de conséquences, et moi il me semble qu'il y a beaucoup de situations qui pourraient être traitées de manière, j'allais dire, développementale, et donc c'est aussi important de le connaître pour éviter que ça n'aille trop loin, en mettant de côté, je le répète, une partie de la population qui a de réels troubles psychiatriques, mais là j'allais dire, nous on les voit dans nos cabinets de consultation. Il n'y a pas tellement de soucis, on s'en occupe. Voilà. En revanche, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la société pour dire ça ne concerne pas que tel ou tel enfant, mais ça peut concerner n'importe qui dès lors qu'il est dans une situation de vulnérabilité. Je préférerais qu'on dise les choses comme ça, parce que chaque fois que les journalistes m'interrogent, c'est « Ah, est-ce qu'il y a un profil de victime? Est-ce qu'il y a un profil de harceleur ?» Du genre « Racontez-nous comment les reconnaître, et puis dormez bonnes gens, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne surtout pas nos enfants, ça ne concerne pas les enfants que fréquentent nos enfants, et comme ça, nous serons tranquilles. » Et moi, je pense que ça peut concerner tout le monde. Je préfère parler, moi, de profil de situation. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des situations qui sont propices à ce déclenchement-là, mais pas des profil de personnalité qui durerait tout au long de la vie. Voilà. Je répète encore, je mets de côté les enfants qui ont de réels troubles et qui, eux, vont bien sûr avoir des problèmes un certain temps. Alors, pour peut-être que vous compreniez comment j'ai bâti, au fond, mon raisonnement, j'ai réfléchi au groupe. Alors bon, en termes, les gens qui font de la psycho seront sans doute pas surpris quand je vous dirai que dès que l'enfant s'éloigne de l'orbe familiale, eh bien, il va bien sûr se rapprocher du groupe et il va trouver dans le groupe, au fond, des identités provisoires. C'est la grande règle, hein, quand on lâche la main de ses parents, on va vers les copains et c'est avec les copains qu'on essaie de voir à qui on aimerait ressembler, ce qu'on aime bien chez l'autre, ce qu'on aime moins chez l'autre, ce que j'appelle des identités provisoires. Donc le groupe va devenir un creuset extrêmement important, et d'ailleurs on ne répète pas tout ce qui se passe aux parents bien sûr dans le groupe, ça fait partie aussi des choses que l'enfant s'approprie, intériorise, et donc c'est extrêmement important. Bien entendu, les groupes, j'allais dire, de la période dite de latence, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans, sont des groupes assez lâches. Hein. Ce sont des groupes où, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir toujours les mêmes amis, on peut en changer assez facilement, mais il y a quand même déjà une dynamique de groupe qui existe. Puis au fur et à mesure, à l'adolescence, on va avoir des vrais groupes bien structurés. Et puis ensuite, ces groupes vont laisser la place à l'âge du lycée, à la petite bande de 2, 3, 4 copains. Hein, et là vraiment quand il y en a un qui manque, ben, on est un petit peu malheureux parce qu'on a l'habitude d'être ensemble, de faire la fête ensemble, donc on voit bien que ça va se réduire au fur et à mesure, mais quelle que soit la taille du groupe, ce groupe a une fonction d'identité provisoire, de lieu où on va choisir les caractéristiques qu'on aime chez l'un ou chez l'autre. Au fond, l'individu est bien sûr considéré comme un individu, mais il est aussi considéré un peu parfois comme avec des qualités. On va repérer chez l'autre ce que bon, certains psychanalystes pourraient appeler un objet partiel, en tout cas des choses un peu particulières qui caractérisent cet enfant-là et qui va être repéré comme un modèle, au fond, auquel on peut s'identifier. Le problème, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que les adultes n'avaient rien à faire, n'avaient rien à voir ni à dire dans le groupe des enfants. On a considéré ça pendant longtemps parce que pendant très longtemps, on a une société verticale où les adultes avaient autorité sur les enfants. Daniel Marcelli a été un des premiers à dire, dans notre monde hautement technologisé, je ne sais pas si c'est un néologisme, enfin extrêmement technique, ben maintenant c'est au contraire l'objet de dernière génération qui fait autorité sur les anciens. Puisqu'on achète le dernier smartphone, le dernier iPhone, etc., qui est plus performant que celui d'avant. Et quelque part, j'allais dire, on a inversé les choses. On est maintenant dans une société de type plutôt horizontal, de type, en effet, où cette dimension de l'autorité des plus anciens ne fait plus force de loi. Mais pendant extrêmement longtemps, eh bien, pendant au moins le siècle dernier, au moins, si on ne veut pas remonter au-delà, on avait une société très verticale, et au fond, au groupe des adultes répondait le groupe des enfants. Et on disait, il faut que les enfants s'aguerrissent. Ceux qui vivent entre eux, ça les prémunit de ce qu'ils devront vivre après. Ils s'y habituent. Donc, c'est pas grave. Et on avait des adultes qui disaient, « Oh, mais non, mais attendez, le harcèlement, on a tous eu ça. On a tous vécu ça. On n'en est pas mort. Et puis, ça fait du bien. Faut s'aguerrir, faut se battre, faut répondre. » On entend ça encore. Des livres comme « Le désarroi de l'élève Torlès » ou « Le petit chose » faisaient partie, il y a fort longtemps, je ne sais plus si c'est le cas en tout cas, mais il y a fort longtemps, c'était considéré comme des romans d'initiation. Ça en dit long quand même sur comment on considérait ça. Il fallait apprendre à se battre. Et les conseils que donnaient les parents, il y en avait deux, c'était « laisse-les dire, il va se lasser hein », ou deuxièmement, bah, « tu lui rends l'appareil ». Voilà. Donc il y avait vraiment l'idée que les groupes des enfants, ça devait s'auto-organiser. Regardez la guerre des boutons, regardez, etc. C'était comme ça. Sauf que dans le monde où on vit actuellement, ben, c'est plus possible. On est dans un monde, alors on peut le regretter, je ne suis pas passéiste, mais on valorise l'individu dans ses compétences. On sait qu'on va avoir besoin des compétences de chacun parce que la société a changé, parce que la société est devenue très technique, parce qu'il y a des robots et des systèmes qui remplacent les humains, et c'est plutôt une bonne chose. Et on sait aussi que l'être humain est quand même précieux. Hein, voilà, c'est pas comme autrefois, on envoyait des gens à la guerre, hein, de la chair à canon, l'être humain n'avait pas beaucoup de valeur. On sait que maintenant l'être humain a de la valeur, c'est important. On valorise beaucoup l'individu. Ce qui fait que c'est vrai, le groupe maintenant aussi, c'est plus tout à fait pareil. Ce qui a constitué la société autrefois, maintenant c'est plus tout à fait pareil. Et puis les groupes, il y a une centaine d'années ou même 50 ans, c'était des groupes obligés. Au jour d'aujourd'hui, les groupes, on les choisit. Regardez sur Facebook et les réseaux sociaux, vous choisissez ou pas de faire que quelqu'un devienne votre ami. Vous choisissez votre groupe de personnes. On ne vous l'impose plus. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Autrefois, vous étiez tenu d'avoir des repas de famille avec tout le monde, la vieille tante qui avait du poil au menton, le tonton qui racontait toujours les mêmes histoires. On appartenait à un village, on était sous le regard de tout le monde, les garçons faisaient leur service militaire, il y avait des groupes, voilà, c'était quelque chose, ça faisait partie, on avait l'habitude des groupes. Là, au jour d'aujourd'hui, hein, c'est compliqué. Et donc, on continue à penser, de manière un peu réductrice, le fait que on met des enfants en groupe, ils vont se débrouiller. Ben non, oui, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais on sait tous que quand on laisse les enfants se débrouiller, ils ont une manière de faire qui est assez radicale. Les enfants, pour se construire, ils sont obligés d'avoir des repères simples. C'est quand on vieillit, qu'on devient sage, qu'on voit tout en nuances. Hein, j'allais dire, si on devait donner une définition de la sagesse, ça serait être capable de tout voir en gris, avec des nuances de gris, sans jeu de mots avec le livre éponyme. Mais ça serait vraiment être capable d'avoir le sens de la nuance, et de se dire au fond, tout est tellement... Il y a du pour, il y a du contre, où est la vérité? Voilà, ça serait ça un petit peu. Sauf que pour se construire, on ne peut pas faire ça. On a besoin d'abord d'avoir du blanc, du noir. Après, on va faire des nuances. Et donc les enfants, vous le savez tous, quand on demande à des enfants qui ont fait une bêtise, si on leur demande de donner une punition, ils vont donner des sanctions extrêmement sévères, alors que nous les adultes, on va dire... Allez, ça, c'est pas si grave que ça, parce qu'on est capable de mesurer, nous, un petit peu, les choses graves. On a l'expérience de la vie. Donc, quand on laisse des enfants en groupe sans le regard des adultes, eh bien, je vous assure que ça donne des choses pas tristes. Parce qu'ils ont besoin, comme ça, de dire « c'est comme ça et c'est pas autrement » pour se repérer. Parce que ce groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va venir remplacer, au fond, la manière dont les parents élèvent les enfants, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut le faire, ça il faut pas le faire. Donc quelque part, ils attribuent aussi au groupe cette valeur aussi forte que les parents, hein, on sait qu'à cette époque-là, dans cette période-là, eh bien, on a ce qu'on appelle, ce que les psychanalystes ont appelé un surmoi, donc des choses très, très rigides, et c'est important d'avoir ça dans la tête, ça permet quand même d'avoir un guide moral, bien sûr, mais aussi des choses qui se font et qui ne se font pas. Tout ça pour vous dire que on laisse un peu trop souvent les enfants se débrouiller avec ça. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez un enfant qui est porteur d'une différence ? Alors, pour qu'un groupe fonctionne, il faut qu'il y ait bien sûr des points communs, c'est ça qui permet d'être ensemble, hein, on aime jouer au même jeu, on a les mêmes cartes Pokémon, on aime faire etc. Bon, voilà. Et puis on a aussi des petites différences, hein, il y a celui qui fait rire, qui fait le clown, il y a celui au contraire qui fait toujours des bêtises, il y a celui qui etc. C'est la règle du groupe aussi, hein, il y a des points communs et des toutes petites différences qui ne sont pas si énormes au point de mettre en jeu la cohérence du groupe. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une différence majeure ? Ben vous allez me dire, il ne fait pas partie du groupe. Ok, c'est souvent comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que cet enfant-là, s'il n'arrive à rentrer dans aucun groupe, il reste seul. Et ça va être une proie facile pour d'éventuels harceleurs après. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enfant qui est porteur d'une différence qui met à mal un des enfants du groupe. Et quand cet enfant du groupe a quelque chose d'un peu charismatique, ça peut être dans le bon ou dans le mauvais, eh bien, il va essayer de faire partager au fond son mal-être aux autres. Et la plupart du temps, quand il est charismatique, il va réussir à entraîner les autres. Et les autres, finalement, vont perdre de vue, et d'ailleurs ils ne le savent pas souvent, ce qui a déclenché ce mal-être chez le harceleur. Ce qu'ils vont voir, eux, c'est garder la cohésion du groupe. Donc on va trouver la situation la plus gore, la plus trash, la plus terrible, la plus créative entre guillemets, pour montrer que dans le groupe on partage la même idée et qu'on va tous faire la même chose. Et au bout d'un moment, les enfants sont dans l'idée de qu'est-ce qui sera le plus créatif et oublient totalement ce pourquoi ils ont commencé et oublient totalement la souffrance de la victime. Et au bout d'un moment, ils perdent de vue ça et c'est ce qui fait que ça ne s'arrête pas. Donc, l'idée principale, ça serait, vous avez bien compris, d'arrêter avant que ça se diffuse. Parce que, au départ, c'est une différence qui met à mal un dans un groupe avec quelqu'un qui va réussir à je fais ce geste-là, mais à entraîner un peu les autres et à dire, au fond, voilà, hein, on va bien rire avec celui-là, et si vous riez avec moi, on fait partie du même groupe, etc., et on va renforcer le groupe. Donc, au fond, c'est ça qui commence. Si, en revanche, on a des spectateurs qui, tout de suite, disent, mais attends, tu arrêtes un peu avec ça, mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il a des cheveux roux, il a des cheveux, je ne sais pas, frisés, ou je ne sais quoi. En quoi ça te gêne ? Si des spectateurs arrivaient en disant « Non mais arrête, ça va pas », ça arrêterait cet effet-là. Sauf que la plupart du temps, les spectateurs, ils n'ont pas envie de s'en mêler. Un, ils disent « Ça ne me regarde pas ». Moi, après tout, hein, tant qu'on s'en prend à lui et pas à moi, c'est pas mon affaire. D'autant que les adultes s'ingénient sans arrêt à dire « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas ». Et on oublie d'ajouter quand même la phrase qu'on devrait dire avec et qu'on ne dit jamais « sauf si, ça fait du mal à quelqu'un ». Cette phrase « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas », c'est ce qu'on dit aux tout petits de 4 ans. On a raison de dire ça à 4 ans, parce qu'à 4 ans, quand même, on n'a pas une distinction très importante entre soi et l'autre. Hein. On voit le râteau de quelqu'un, on en a un dans la main, on va prendre le râteau de l'autre. À 4 ans, on est comme ça, parce qu'à 4 ans, on n'est pas complètement déterminé dans sa propre conception de soi. Hein. On est encore beaucoup à l'autre, à quelque chose que moi je voudrais. Donc on dit ça quand les enfants sont petits. Il faudrait qu'on change un peu notre discours au fur et à mesure que l'enfant grandit en disant « Oui, c'est toujours vrai, il y a des choses qu'on ne doit pas répéter, par exemple les secrets, on n'a pas à répéter les secrets dans un groupe. En revanche, quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un est maltraité, etc., là tu dois le dire. » Et il faudrait faire aussi évoluer un petit peu notre manière de parler aux enfants de ce qu'on peut faire ou pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que le harcèlement était aussi une bonne manière de parler de la citoyenneté. C'est pour ça que je milite beaucoup pour que le harcèlement soit pas tout le temps que du côté de la violence, même si je sais que ça en fait partie, je n'ai pas une vision angélique de la chose, mais que aussi on se dise que finalement ça peut être quelque chose de positif de parler du harcèlement. Au fond, quand est-ce qu'on intervient, quand est-ce qu'on pose des limites, quand est-ce qu'on fait réfléchir les enfants sur ce qu'on doit dire ou pas, et quand est-ce qu'on fait réfléchir les adultes à comment ils éduquent les enfants. Voilà. Et donc je pense que ça peut être une bonne manière aussi de réfléchir à l'éducation. si une fois encore on reste dans cette perspective développementale et pas les situations pathologiques que je connais, qu'on connaît quand on est psy et qu'on reçoit dans nos cabinets. Hein, voilà, je le répète régulièrement, mais c'est important. Hein. Ça existe, mais c'est une proportion vraiment qui est très faible. Donc l'idée, c'est la suivante, c'est en effet de permettre à l'enfant, qui est spectateur, de pouvoir intervenir. Mais ils ne le peuvent que si, en effet, il est en face des adultes qui lui disent « tu as le droit d'intervenir ». Et non pas des enseignants, quand il y a quelqu'un dans la cour de récréation qui va dire à monsieur, madame, au maître ou à la maîtresse, il se passe des choses, on lui dit « ça ne te regarde pas, mêle-toi de ce qui te regarde ». Et on ne devrait plus entendre ça, on ne devrait plus. L'adulte devrait dire « bon, écoute, je vais aller voir ce qui se passe ». Après, je verrai. Moi, en tant qu'adulte, je gérerai la situation, je verrai. Mais d'emblée, ça ne se fait pas. Et que disent les enfants ? Si tu vas le dire à l'enseignant, tu es une balance. On devrait arrêter. On devrait dire « oui, tu es une balance si tu répètes des secrets ». Si tu dis que Marion est amoureuse de Nathan, bah oui, ça tu n'as pas à le répéter. Ça, c'est vrai, c'est un secret. Ok. Mais après, dire que Marion est en difficulté parce que Nathan et ses copains lui prennent le goûter, l'embêtent et lui demandent je ne sais pas quoi, bah oui, là, peut-être qu'il faut que tu ailles le répéter. Donc, il faut peut-être, je pense, modifier un petit peu notre manière un peu brutale de dire aux enfants « ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas ». Voilà, il y a des choses dont il faut apprendre, en effet, aux enfants et qui doivent s'en mêler. Donc, vous avez bien compris, au départ, il y a une dynamique de groupe, et c'est pour ça que moi j'ai bâti toute ma théorie sur l'échec de la dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un petit groupe qui s'entendent plutôt bien, avec en effet des enfants qui partagent des valeurs à peu près communes, qui peuvent changer assez vite dans le groupe, et puis d'une année sur l'autre aussi, hein, ça, parce que les enfants à cet âge-là ont besoin aussi de rencontrer beaucoup de modèles identificatoires, donc ils vont changer assez souvent, hein, et ça aussi, ça va être un des problèmes. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont assez souples dans leur fonctionnement psychique et qui vont facilement accepter de changer de groupe d'une année sur l'autre, et vous en avez aussi qui sont un petit peu inquiets dans leur relation avec les autres, et quand ils sont quittés ou abandonnés par quelqu'un, le vivent vraiment comme un abandon, et à ce moment-là ne vont pas le supporter. Mais normalement, dans l'enfance, c'est fait pour aller voir un petit peu partout, hein, avec des moments où on a un lien très fort avec quelqu'un, et puis 6 mois après, beaucoup moins, parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre qui, etc. Et normalement, on doit être capable de le supporter, enfin, quand on est à peu près équilibré. Mais il y a des enfants qui ne peuvent pas supporter ce lâchage. Et c'est souvent ceux-là qui harcèlent. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se sentent lâchés, abandonnés, ils ont l'impression qu'on va leur en préférer d'autres. Et c'est ça aussi qui est compliqué pour certains enfants, c'est qu'ils sont souvent harcelés par des gens qui ont été d'anciens amis très proches. Et c'est compliqué pour un enfant de comprendre ce que l'autre lui veut, parce qu'ils ont passé des mois formidables, ils ont fait des choses ensemble, ils disent « mais pourquoi maintenant tu t'en prends à moi ?» Donc il y a un moment qui est assez long, pendant lequel l'enfant ne va pas comprendre, donc ne va pas réagir correctement, et si l'enfant ne réagit pas correctement, eh bien le harcèlement va se mettre en place. On évite tous, nous, dans nos vies d'adultes, des situations qui pourraient mal tourner. Je prends un exemple simple dans notre vie quotidienne, si vous avez un conjoint. Parfois, votre conjoint rentre à la maison et puis tout d'un coup, il va se mettre à vous, votre conjointe, hein, voilà, il va se mettre à vous dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des chaussures qui traînent dans l'entrée, t'as pas sorti la poubelle ?» Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes tendance un petit peu masochiste et vous êtes déjà en train de vous dire « je fais jamais les choses bien », et là vous dites « ah, c'est vrai, j'ai pas fait, etc. » et vous allez passer complètement à côté de la raison pour laquelle votre conjoint vous dit ça. Soit vous dites « non mais attends, là il est en train de s'en prendre à moi, mais je ne suis pas le sujet, moi, de son énervement ». Et là on dit « attends, maintenant tu te calmes, tu me dis pourquoi ça ne va pas, on en parle, et après si tu veux j'irai ranger les chaussures ou sortir la poubelle. Mais pour l'instant tu me dis ce qui ne va pas ». Si on est capable de démonter ça, eh bien ça ne va pas continuer. Mais si en revanche on ne démonte pas ça, il y a des chances pour que le conjoint ayant trouvé finalement un exutoire à sa colère, continue à trouver dans la maison tout un tas de choses qui ne vont pas. Et si vous n'arrivez pas à arrêter la chose, eh bien ça va continuer. C'est exactement ce qui se passe pour le harcèlement entre des enfants. C'est-à-dire que si en face vous avez quelqu'un qui tout de suite répond et démonte, ça va s'arrêter. Si en revanche vous êtes saisi parce que c'est un ancien copain qui vous fait ça, vous dites « mais qu'est-ce qu'il lui prend ?» Mais je comprends pas, je sais pas. Ou alors, des propos, j'allais dire, qui correspondent à rien, des choses qu'on vous dit qui sont complètement fausses. Vous ne pouvez pas réagir, donc vous avez un moment un peu de stupéfaction, et le harceleur dit j'en ai trouvé un, bon là il comprend même pas ce que je suis en train de lui dire, et ça va commencer, et la dynamique de groupe va se mettre derrière. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les autres vont avoir à cœur d'avoir la manière d'embêter la plus créative, entre guillemets, et ils vont perdre complètement de vue la souffrance de la victime en face. Et souvent, quand on arrête des phénomènes de harcèlement et qu'on les fait réfléchir à la situation par des jeux de rôle, par exemple, c'est-à-dire qu'on les fait tourner, on les met en situation de victime, de spectateur et de harceleur, et là, ils disent « Ah ben, on n'avait pas vu, on ne s'était pas rendu compte. » Moi, je suis stupéfaite de la manière dont la chose s'enclenche extrêmement vite et de l'absence de recul. Ce sont des enfants en plein développement, donc ils n'ont pas des capacités de recul comme nous, adultes, on peut en avoir. Et quand on les arrête et qu'on leur dit « Mais attends, tu vas maintenant jouer le rôle de la victime », et là ils disent « Ah, ben j'avais pas vu ça comme ça ». Et vraiment, c'est pas pour éviter une sanction, hein, quand on est dans un théâtre forum ou autre, c'est vraiment pas pour éviter une sanction. Ils avaient vraiment pas compris ça. Parce qu'ils sont tout à l'heure au fond, voilà, on fait groupe, on se fédère, il y en a un, finalement ça fait bien rire, c'est amusant, etc. Ils se mettent pas du tout à la place de l'autre, et c'est vraiment compliqué. Il faut une certaine maturité, hein, pour arriver à se mettre à la place de l'autre. Et souvent les enfants n'ont pas cette maturité, et puis le phénomène de groupe est extrêmement puissant. On le sait tous, hein, les phénomènes de groupe, c'est des choses extrêmement puissantes. Prenez, il y a plein d'études qui ont été faites, prenez une classe en début d'année, vous allez avoir des vêtements différents, à la fin de l'année, tout le monde est habillé de la même manière. Hein. Donc c'est des phénomènes extrêmement puissants, et ça a même été fait pour des cycles biologiques, puisque on s'est rendu compte qu'en internat, les filles avaient leurs règles quasiment toutes au même moment. Donc c'est des phénomènes même qui se marquent biologiquement dans le corps. Donc on sait l'impact du groupe. Et donc on voit bien qu'au bout d'un moment, on perd de vue ce qui a initié le fait qu'on s'en prenne à quelqu'un. Et après, je veux dire que ce qui fait rire les gens, c'est l'idée la plus, entre guillemets, créative. Hein. Et on perd de vue la souffrance. Et c'est pour ça que faire un arrêt sur image et dire « Non mais attendez, qu'est-ce que vous croyez qu'il allait se passer en faisant ça ? Qu'il allait quoi ? Se faire défriser les cheveux ? Maigrir de 20 kilos en une nuit, bon, franchement, vous pensiez qu'il allait se passer quoi en faisant ça? Vous avez un peu réfléchi? Parce que, bon, voilà, vous, ou que la personne allait disparaître de votre vue, quitter l'établissement scolaire, enfin, je sais pas, vous avez pensé. Et quand on fait réfléchir les enfants, d'un seul coup, ils disent, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé aux choses comme ça. C'est-à-dire que, voilà, ils voient simplement le mal-être, et ils essaient tout de suite de se dégager de ce mal-être, parce qu'en effet, ils sont dans des périodes de construction de la personnalité. C'est pour ça que ce que je vous raconte là, et je tiens à le préciser, ça concerne les enfants de 8 à 16 ans. Après, le harcèlement, c'est d'une autre nature. Donc là, je parle vraiment des enfants en cours de construction de la personnalité. Mais néanmoins, il y a des enfants qui ont commencé à harceler à 12, 13, 14 ans, et qui, n'ayant pas été arrêtés, continuent après. Mais ils ont commencé là. Le harcèlement qui débute vraiment après, c'est le fait souvent de personnalités plus perturbées ou de situations un petit peu plus compliquées. Ou alors le fait d'enfants qui n'ont pas été arrêtés et qui vont poursuivre. Hein, mais ça n'a pas débuté à ce moment-là. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi, on ne se rend pas compte, quand on discute avec les enfants, et vraiment, ils sont vraiment de bonne foi, parce que c'est hors sanction, hors etc., ils vous disent, mais on ne s'était pas rendu compte. On ne s'était vraiment pas rendu compte que ça pouvait avoir ces conséquences-là. Voilà. Parfois, les spectateurs arrivent à s'en rendre compte, et c'est sur cela qu'on essaye justement de faire de la prévention, parce que c'est quasiment les seuls qui peuvent intervenir. Parce qu'une fois que vous avez la victime qui est prise dans l'histoire, et les harceleurs en face qui sont en train de faire à celui qui aura l'idée la plus créative, c'est très difficile d'arrêter, parce que sinon ils sortent du groupe et ils craignent d'être victimes à leur tour d'ostracisme de la part du groupe. Donc les seuls qui peuvent intervenir, ce sont les spectateurs. Et c'est pour ça que tous les gens qui ont réfléchi sur ce phénomène, que ce soit il y a 20 ans les premiers, hein, donc Norvège, Suède, Canada, etc., on a toujours axé tout notre travail de prévention sur les spectateurs. Ce sont les seuls qui peuvent intervenir très vite et qui peuvent en effet faire en sorte que ça ne dure pas. Dès que ça a duré, ça devient très compliqué. Très compliqué parce que, d'abord, les enfants mettent du temps à comprendre ce qui leur arrive. Je vous l'ai dit, si c'est d'anciens camarades, c'est compliqué. Et puis, ils ont honte. Ils ont honte et ils disent « on va quand même pas... » Voilà. Donc ils essaient de s'en sortir seuls. Et le fait de s'en sortir seul, eh ben, ça prend du temps. D'autant que les autres sont de plus en plus créatifs et puis que le groupe souvent grossit. En moyenne, c'est entre 4 à 6 mois après 4 à 6 mois qu'un enfant révèle le fait qu'il est victime du harcèlement. Regardez un enfant de 10 ans, ce que représente 4 à 6 mois en termes de pourcentage de vie. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est énorme. C'est comme si nous, adultes, on était harcelés sans cesse pendant 2 ans, 3 ans. Quand ça arrive dans des entreprises, qu'il y a des gens qui ont été harcelés 2 ans, 3 ans, voyez l'état dans lequel ils sont. Hein, c'est des gens qui se récupèrent très, très, très difficilement. Ça laisse des séquelles très importantes. Donc on peut comprendre que chez des enfants en cours de développement, ça laisse des séquelles très importantes. Sauf que les enfants, au début, ils ont honte. Ils ont honte d'être dans cette situation-là. Et la seule petite part de narcissisme un petit peu vivant qu'ils ont en eux, c'est de se débrouiller tout seul. Parce que là, ça va quand même être important pour eux. Et donc, ils ne vont pas demander de l'aide. Et puis, plus ça dure, plus c'est compliqué de demander de l'aide. Parce que quand ils vont demander de l'aide au bout de 4 mois, la première question, c'est pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt. Donc, quand ils vont dire aux parents, vous imaginez les parents d'un enfant qui dit qu'il est harcelé. C'est une blessure narcissique profonde pour un parent. Et là, les parents, ils réagissent avec leur tripes. Et ce n'est pas la meilleure manière de réagir. En tant que parent, tout parent va évidemment protéger, venger sa progéniture. C'est logique. Sauf que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit je vais récupérer le gamin ou les gamins harceleurs à la sortie de l'école et je les menace. En principe, les victimes n'aiment pas trop parce qu'ils se disent on va avoir de la rétorsion après. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils renoncent pendant très longtemps à dire quelque chose parce que c'est ce qu'ils craignent. Soit en effet, on va les changer d'établissement scolaire. Alors là, ils craignent ça par-dessus tout parce qu'ils vont perdre les copains quand même qu'ils ont à l'école. Et puis surtout, ça risque de recommencer ailleurs. Et là, les adultes qui ne comprennent décidément rien, quand ça recommence, appellent les parents en disant « Vous voyez bien, monsieur, madame, c'est votre enfant qui a un problème hein, parce qu'on a changé de lieu et ça recommence. » Non. Ce sont les adultes qui ont un problème. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'en changeant l'enfant comme ça, l'enfant va arriver avec un langage de peur. Et que ça, ce langage de peur, ça va être repéré par un potentiel harceleur qui va lui tomber dessus. Donc ce n'est pas du tout la faute du gamin, du tout, c'est la faute des adultes. Hein. Donc voilà, et on se méprend complètement sur, en effet, ce discours qu'on va tenir, c'est la faute de votre enfant, il faut aller voir un psy, hein, parce que vous voyez, il a un gros problème à votre enfant, partout où on le met, il y a des soucis. Non, non, c'est les adultes qui ont un gros problème, c'est les adultes qui ne voient pas ce qui se passe et qui ne savent pas ce qui se passe dans les groupes d'enfants. Donc c'est extrêmement important de pouvoir, travailler aussi avec les adultes, parce que si en effet on dit aux parents, il ne faut pas aller voir l'enfant hein, qui a embêté votre enfant, ou il ne faut pas le changer d'établissement scolaire, il faut bien que les parents aient un interlocuteur. C'est normal. Quand on s'en prend à votre enfant, il faut aller voir quelqu'un. Le premier interlocuteur, si ça se passe à l'école, bah c'est l'enseignant ou le directeur de l'école. Sauf que là, la plupart du temps, le directeur de l'école ou l'enseignant qui a vaguement observé ce qui se passait dans la classe, vous dit « Ah, oui, mais venez voir, hein, votre enfant, c'est pas le dernier. » Parce que forcément, ce que l'adulte a vu, c'est aussi une situation qui est déjà bien dégradée et où l'enfant, le malheureux, fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Sauf que comme il est un peu débordé, il a aussi des réactions pas très adaptées. Donc il va se mettre à crier, à taper, à faire des tas de trucs. Et vu de l'extérieur, les deux sont coupables, les harceleurs et la victime. Donc non, c'est pas la victime qui est coupable. Donc ça aussi, il faut, ce qu'on a essayé de changer avec Éric de Barbieux, avec le ministère de l'Éducation nationale, mais c'est compliqué, je vais expliquer pourquoi c'est compliqué. Ce qu'on a essayé de changer, c'est ça. C'est dire, la première chose, c'est qu'il faut que les adultes s'entendent. Et il faut que quand un parent vient voir un parent en disant « mon enfant est embêté », l'adulte ne commence pas par répondre « Ah, vous devriez venir voir dans la cour, votre enfant, ce n'est pas le dernier. » Ça, il ne faut plus entendre ça. Il faut lui dire « Écoutez, venez, madame, monsieur, on s'assied, on discute, on va voir. » On ne peut pas tout voir, c'est normal. Et puis les enfants aussi se débrouillent pour qu'on ne voit pas tout. C'est le rôle des enfants aussi de s'extraire de la présence des adultes. Ça fait partie de la construction de leur personnalité. Donc il faut qu'ils s'extraient des adultes pour se construire aussi. Donc c'est normal, on n'a pas tout vu. On n'est pas là pour se jeter à la figure qui est responsable. On est là pour discuter maintenant qu'est-ce qu'on fait. C'est la première des choses à faire. Voilà. Donc déjà, il faut que les adultes s'écoutent. Et ça, c'est la première des choses à faire. Voilà. Donc bon. C'est un peu compliqué parce qu'il y a encore des gens qui disent « Oui, mais les parents, ils vont nous crier dessus, ils vont nous dire qu'on n'a pas fait notre boulot, on ne sait pas faire, on n'est pas formé pour ça. » Voilà, c'est l'éternel problème. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc il faut éviter de régler ces problèmes tout seul parce que soit vous êtes, en tant que parent, vous arrivez à vous faire entendre de la part de l'adolescent ou des adolescents ou des enfants qui ont embêté votre enfant ou des parents de l'autre enfant, mais vous prenez un risque, hein, vous ne savez pas ce qui va se passer. Peut-être que les enfants vont aussi se liguer, aller chercher d'autres groupes et embêter encore plus votre enfant. Vous prenez un risque. Ou vous risquez aussi d'avoir des parents qui vont venir s'en mêler, les parents des harceleurs qui vont s'en mêler, et vous risquez de ne pas avoir le dessus. Et là, c'est quand même pas terrible. Donc, vous prenez un gros risque. Donc, il vaut mieux prendre un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'extérieur du règlement. En principe, bah, les gens de l'école, hein, voilà. Donc, actuellement, on sait bien que c'est un peu compliqué. On a créé dans tous les rectorats, je ne sais pas si vous le savez, mais dans tous les rectorats, vous avez quelqu'un, un référent harcèlement. Il vous suffit d'appeler le rectorat et de demander le référent harcèlement. Voilà, le référent harcèlement, il est là pour être médiateur, c'est-à-dire pour à la fois écouter les parents qui viennent raconter leur histoire, aller voir sur place les enseignants. Alors, chaque département, chaque rectorat, pardon, s'est organisé de manière un peu différente. Il y a des rectorats très en pointe et d'autres un peu plus à la traîne, mais normalement, il y a au moins un référent. Et il y a parfois donc des référents dans chaque département, hein, puisqu'une académie, c'est plusieurs départements. Il y en a d'autres où c'est qu'un référent par académie. Enfin, voilà. Mais normalement, il y a déjà un référent. Il faut déjà aller voir ce référent académique. C'est extrêmement important. Ce référent académique, justement, l'idée, c'est un peu comme la justice, si vous voulez, ça essaie de faire tampon par rapport aux réactions émotionnelles. Parce que quand on est parent et qu'on touche aux cheveux d'un de vos enfants, on devient tous des bêtes fauves, hein, ce qui est normal. C'est normal. C'est normal qu'on soit totalement aveugle quand on s'occupe de nos enfants. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait un peu tampon et qui apaise, c'est aussi le rôle de la justice. Hein. Bon, là, la justice, elle est un peu mal en point, elle traîne beaucoup. Mais officiellement, on l'avait fait à distance pour que précisément les patients s'apaisent. Parce que les choses qu'on traite en urgence, c'est le problème des référés par exemple, qu'on traite en urgence, c'est toujours sous le sceau de la passion. Et quand on est sous le sceau de la passion, on prend des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures. Donc le tiers, c'est fait aussi pour mettre un petit peu de distance et faire qu'on voit les choses avec moins de passion. Mais en tant que parent, c'est parfaitement normal qu'on soit. Donc c'est pour ça qu'on dit aux parents, ne réglez pas les affaires entre vous. Parfois, ça peut bien se passer, mais c'est rare, c'est rare. Souvent, ça risque de mal se passer. Donc il faut mettre un tiers qui va au contraire diffracter, différer, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc l'idée, ça serait ça, si on passe maintenant au niveau du... alors d'abord, peut-être qu'avant de finir, peut-être parler des conséquences, et puis après on parlera de ce qu'on peut faire. Donc une fois qu'on a fait cette dynamique de groupe, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Alors là, on a été très aidé par Éric de Barbieu, qui nous a fait part de tous les travaux qui ont été faits depuis 20 ans ou 30 ans, hein, parce que les premiers travaux ont été faits dans les années 90, quand même, les premiers travaux. Et donc, les anglo-saxons sont des gens très pragmatiques, hein, ils ont tout essayé. Et quand on a fait les premières assises à Paris en mai 2011, ils nous ont dit, on va vous dire, nous, tout ce qu'on a fait, ça vous fera gagner du temps, comme ça vous éviterez de faire les mêmes erreurs que nous. Ce que j'ai trouvé sympathique, je ne sais pas si nous, en France, on est capable de partager comme ça nos... J'ai trouvé que c'est très anglo-saxon, cette manière de faire. Donc, ils nous ont dit, voilà, ça marche, ça marche pas, ça fait pas, ça c'est pas la peine, on a essayé, ça sert à rien. Voilà. Donc, ce qu'ils nous ont dit qui marchait, c'est la durée. C'est-à-dire que quand on s'engage contre le harcèlement, c'est tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je dois dire que tous nos gouvernements, qui sont de droite comme de gauche, ont mis ça dans la loi et on a maintenant une journée, le premier jeudi de novembre, qui est consacrée au harcèlement. Vous allez me dire, tous les jours de l'année, un coup c'est la journée des femmes, un coup c'est la journée de je sais pas quoi, un coup c'est la journée du harcèlement. Bon, certes, bon. Mais en tout cas, c'est important parce que dans les écoles, ils ont obligation de faire quelque chose pour ce jour-là. Voilà. Donc, ça oblige quand même les gens à se rappeler, à faire ça. C'est symbolique, mais c'est quand même important. Voilà. Donc, ils nous ont dit, premièrement, il faut l'inscrire dans le temps, dans la durée. Voilà. Ça, il n'y a pas de mystère. Ben, on le voit. Hein. Regardez maintenant, quand il y a des enquêtes qui sont sorties sur le sida, par exemple. On ne fait plus de prévention du sida maintenant, mais regardez ce que racontent les jeunes, hein. Ils vous disent « Oh mais non, le sida, c'est pas très grave, etc. » Bon, voilà. On voit bien que si on ne répète pas les choses en permanence d'une année sur l'autre et tout le temps, ça ne marche pas. Donc ils ont dit premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il ne faut pas être trop ambitieux, il faut travailler sur un bassin. Et il faut qu'il y ait un référent bassin, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe, alors du primaire, puisque je vous ai dit, légitimement, on peut commencer à parler de harcèlement à partir du moment où les enfants ont une conscience de ce qui est à eux et pas à eux. Hein. Vous savez ce qu'on appelait l'âge de raison à partir de 7 ans, on va dire à partir de ce moment-là. Voilà. Donc l'élémentaire, si on veut, hein, l'élémentaire collège. Donc il faut vraiment un référent bassin, comme on dit, hein, c'est les mots de l'éducation nationale, pour le primaire collège, on va dire, puisque je vous ai dit maladie après, quand même, ça diminue beaucoup. Et quand on en a, c'est des situations pathologiques. Donc ça, c'est il faut quelqu'un qui soit là tout le temps et qui chaque année revienne en disant « qu'est-ce que vous avez fait comme action ?» Voilà, bon, ça c'est très important. Il faut qu'il y ait une personne désignée. Hein, donc inscrire dans le temps une personne désignée pour justement inscrire dans le temps. Après, ce qu'ils nous ont dit, ça a été plutôt sympathique, tout marche. Tout ce que vous allez faire, du théâtre forum, des discussions, des projections de films avec discussion, des jeux de société, préparer des affiches, tout marche. Voilà. Ça donc, après, vous êtes libre, laissez libre cours à votre créativité, il n'y a pas une chose qui marche mieux que d'autres. Voilà. Mais ce qui est important, c'est toujours d'inclure les parents dans cette dynamique-là. Voilà, c'est-à-dire que l'école ne peut pas être seule à porter ça. Il faut inclure les parents dans cette dynamique et il faut répéter ces actions en permanence. Voilà, les trois messages simples à faire passer, c'est un, il faut l'inscrire dans le temps, il faut inclure les parents et il faut en effet qu'il y ait quelque chose d'un peu symbolique chaque année. Et après, les moyens de le faire, voilà, vraiment, c'est la liberté de chacun. Voilà, mais c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire aussi faire des formations pour les enseignants. Et le problème qu'on a rencontré, on est parti avec Éric Debarbu un peu content en disant, bon, ça y est, enfin, ils en sont occupés. On a été un peu épatés de la manière dont les différents gouvernements qui se sont succédés avaient pris ça en main. Malheureusement, dans les formations, ce qu'on appelle le PAF, hein, le plan académique de formation, c'est optionnel. C'est-à-dire que c'est choisi plus ou moins par des... Je vais faire une formation pour l'académie de Poitiers, 4 départements. Bon, certes, c'est des petits départements, 400, 420 000 habitants. Ok. Ça fait donc 4 fois 4, vous voyez, 16, 1 million 6. Savez-vous combien on a eu pour un stage qu'on fait avec l'académie? 6 personnes. C'est formidable. Voilà. Parce que, à côté de ça, ils vont vous prendre des trucs sur les précoces. Moi, je suis d'accord, hein, je n'ai rien contre les précoces, je milite tout à fait pour qu'on les reconnaisse, mais bon, voilà, c'est très déséquilibré. Vous en avez 40 qui vont s'inscrire d'un côté, puis 6 de l'autre, c'est très très déséquilibré. Et dans les SP, donc les écoles de formation, on n'arrive pas à dire, on aimerait bien, ils nous disent, oh, on a tellement de choses à faire sur la pédagogie, sur machin, etc. On leur dit, ok, mais après, il faudrait qu'il y ait des formations un peu fléchées, un peu obligatoires dans les années qui viennent. Il y en aurait des optionnelles, puis d'obligatoires. Sauf que c'est optionnel. Et c'est très compliqué. Et ce que nous disent les enseignants, c'est, ah non, mais c'est trop difficile, non, on ne peut pas gérer ça, ce n'est pas notre mission. Les histoires de gosses, alors ça nous dépasse, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, et puis non, on n'est pas formé pour ça, on n'a pas choisi ce métier pour ça, on ne veut pas. Moi, je dis, il y a quand même des conseillers d'orientation psychologue, des infirmières, des médecins, des AS. Il y a plein de gens qui pourraient participer. Hein, voilà, les psychologues d'éducation nationale qui pourraient participer. Et puis faire des binômes, etc. Mais bon, là, pour l'instant, voilà. Donc, voilà, j'ai perdu un peu le fil de mon truc. Je suis un peu partie sur ce qu'il fallait faire. Je reviens à mes conséquences. Voilà. Alors, les conséquences. Alors, en termes de conséquences immédiates. Les conséquences immédiates, c'est que l'enfant, je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être stressé pour une raison ou une autre, on fait les choses machinalement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on a posé les clés de la voiture, et puis parce qu'on a l'habitude, et puis on va les chercher partout. Puis en fait, on se rend compte qu'on a fait les courses en même temps et on a tout rangé au frigo. Et on va chercher les clés, elles sont faites bêtement dans le frigo, on va finir par chercher quelque chose et on va les trouver dans le frigo. Ce que je veux dire par là, c'est que le harcèlement est un poison pour l'apprentissage. Donc la première chose, le premier signe souvent qu'on va voir, c'est une chute des résultats scolaires. Le problème, c'est que si ça arrive à l'adolescence, vous imaginez qu'il y a mille et une raisons pour que les adolescents chutent au plan scolaire, forcément. Parce que ils ont en tête, savoir s'ils sont populaires, les copains, les copines, et puis ça commence à les barber un petit peu, donc ils ont envie aussi de faire un peu à leur manière, d'apprendre quand ils ont envie d'apprendre, etc. Et donc on peut passer complètement à côté. Donc ça, voilà. Donc la première chose qui va se passer quand un enfant est harcelé, c'est souvent une chute des résultats scolaires. Ce qu'on va voir aussi souvent, mais il n'y a rien qui est spécifique. On va avoir des enfants qui arrivent, ils n'ont pas leurs affaires de sport. Ben oui, forcément, on leur a mis de la peinture dessus ou de l'encre, on leur a caché, on les a mis dans les toilettes, ou ils n'amènent pas leur matériel, le compas, etc. Ben oui, forcément, on a balancé leur sac des puits de lumière, tout s'est cassé, et ils n'ont pas envie de répondre à la question qui c'est qui les a cassés. Voilà, donc, voilà. Ou alors ils arrivent en retard systématiquement parce qu'ils prennent le bus d'après ou qu'ils viennent à pied pour éviter de se faire embêter par les autres. Bah, tout ça, c'est pas spécifique, parce que vous avez mille et une raisons de ne pas faire votre devoir le soir, d'être un peu tête en l'air ou de ne pas vouloir travailler, voilà, et donc c'est pas spécifique. Mais malheureusement, ce sont sur ces seuls signes qu'il faudrait pouvoir interpeller les enfants et leur dire, écoute, est-ce que par hasard tu ne serais pas embêté par les autres ? Enfin, on va revenir après là-dessus. Donc le premier signe, c'est ça. Le deuxième signe, c'est que l'enfant, je vous l'ai dit, veut s'en sortir tout seul, hein, parce qu'il a encore un petit peu de narcissisme et qu'il veut s'en sortir, ce qui veut dire que ça va durer longtemps et qu'au bout d'un moment, l'enfant ne voit plus d'issue. Si je le dis maintenant, ben mes parents, ils vont me fâcher parce que je ne l'ai pas dit. Bon, voilà, je vais me faire punir. Et puis, franchement, là, c'est la honte, hein, parce que je voulais bien m'en sortir seule, je ne vais pas y arriver. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Puis, je vais me faire embêter par les autres, donc je ne vais pas le dire. Donc, au bout d'un moment, ben, y a une dépression qui s'installe. Et finalement, la seule solution, ça peut être le suicide. Ou un geste suicidaire, en tout cas. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on se rend compte qu'il y a eu du harcèlement. Parce que ben, l'enfant est un peu piégé, il ne peut pas le dire. C'est le seul narcissisme qui lui reste encore un petit peu, c'est de se débrouiller seul, sans demander de l'aide, parce qu'il sent plus que ça va attaquer les parents, et qu'il ben, risque d'avoir aussi des conséquences qu'il ne veut pas, hein, que ben, les parents vont aller se plaindre, et puis les autres vont se moquer de lui encore plus, donc ben, l'enfant finalement dit « je peux rien faire ». Donc l'anxiété, la dépression. Quand l'enfant arrive à changer de classe et que ça ne se reproduit pas l'année d'après, si jamais il y a quelque chose qui ressemble à du harcèlement 2, 3, 4 ans après, moi j'ai vu des phobies scolaires s'installer à ce moment-là. C'est-à-dire les enfants refusaient d'aller à l'école parce qu'il y avait un effet rebond au fond de ce harcèlement qui avait eu lieu 3, 4 ans avant. Et là, mais c'est impossible. Hein. Alors ça peut les concerner eux ou les concerner de manière annexe parfois. C'est le meilleur copain ou la meilleure copine qui est victime de ça. Et on voit arriver des phobies scolaires massives, une impossibilité d'aller vraiment en classe. Vraiment. Catherine Blaya a fait une étude en Aquitaine en disant qu'il y avait 30% à peu près des enfants qui étaient soi-disant victimes de refus scolaires et qui vivaient du harcèlement. C'est énorme, 30% parmi les enfants qui refusent d'y aller. C'est vraiment énorme. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc on sait que ne pas être disponible pour les apprentissages, il y a une chute des résultats scolaires. Donc non seulement ils disent rien aux parents, ils se font fâcher parce que ils travaillent pas à l'école, en plus ils risquent de redoubler, ils s'en sortent pas seuls. Donc vous imaginez la détresse dans laquelle sont ces enfants. Et il y a un effet rebond possible si les années suivantes, ils sont confrontés à nouveau à ça et que ben, plus personne ne pense que c'est le harcèlement qu'ils ont eu ça. Ce qui fait que ce sont des enfants qui souvent s'auto-censurent dans leurs études, parce qu'on a des enfants qui vont éviter d'être dans des situations où ils vont devoir prendre la parole devant les autres ou travailler en groupe avec les autres. Alors, assez logiquement, ces enfants qui ont vécu des humiliations à l'école se tournent souvent soit vers les métiers d'aide, travailleur social, assistante sociale, soit vers les métiers de justice, je vais être juge, je vais être etc., etc. Et bien évidemment, ce sont des enfants qui sont amenés à travailler avec d'autres. Ce sont des métiers où forcément c'est collaboratif. Et j'ai souvent eu, moi, des gens qui sont venus me voir à la fin de mes interventions en me disant, ben voilà, moi je suis devenue assistante sociale, mais quand j'ai des réunions de synthèse, ben je peux pas. Quand on est plus de 6-7, l'effet du groupe, je ne supporte pas d'être dans une pièce fermée. Alors, ce n'est pas que de la claustrophobie, mais c'est parce que l'idée d'être dans un groupe, ça me rappelle des choses que j'ai vécues quand j'étais enfant. Je ne peux pas, je suis pris d'attaques de panique. Donc, et ça donne des stress post-traumatiques extrêmement importants, avec tous les stress, tous les critères du stress post-traumatique. Hein, vraiment des choses graves, enfin, comme dans les attentats ou des choses comme ça. Hein, c'est vraiment. Donc ça veut dire que ces gens-là vont se restreindre dans leurs prétentions de formation, parce que ben, ils sont gênés par tout ce qui est groupe. Ils peuvent développer des phobies sociales, donc vous imaginez après ben, la difficulté. Et le problème, c'est que le jour où ils ont des enfants, dès qu'il y a une situation de violence, ils sont incapables d'en parler avec leurs enfants. J'ai une mère un jour d'une petite fille de 5 ans qui m'a envoyé un SMS qui m'a dit « Ma petite fille de 5 ans, elle est en grande section de maternelle. Elle vient de rentrer de l'école et elle m'a dit qu'il y avait deux copines qui l'avaient embêtée, qui lui avaient dit qu'elle n'était pas belle, qu'il ne voulait plus jouer avec elle, etc. » Elle dit « Je sais que c'est pas grave, je sais que ça arrive aux enfants de 5 ans, c'est la règle. » Mais elle dit « Moi, j'ai revécu ce que j'ai eu quand j'étais enfant. Et elle a dit, j'étais déconcertée. Et ma fille m'a dit, pourquoi tu pleures, maman? Et vous imaginez, cette petite se dit, mais j'ai une maman qui n'est pas fiable. Je lui raconte quelque chose qui me touche et ma maman, elle s'effondre. Mais je ne lui dirai plus rien. Donc cette petite, le jour où elle est embêtée, elle ne dira rien à sa mère. Et c'est comme ça que ça se reproduit. Et donc c'est comme ça que vous avez des répétitions d'une génération sur l'autre, ce que montrent toutes les études épidémiologiques qui ont donc été faites. Donc on voit bien quand même la difficulté. Donc il va y avoir des répétitions transgénérationnelles. Et on a souvent de ce fait des enfants qui s'auto-censurent dans des métiers de relations qu'ils ne vont pas faire. Et qui vont faire des métiers qui les font suer, mais parce qu'ils disent là au moins je suis tranquille. Je suis planquée derrière un ordinateur. Et si j'ai des contacts avec les gens, c'est pas... sous réserve qu'ils n'aient pas été cyberbulliés, puisque le cyberbullying, voilà, c'est le harcèlement sur Internet, sous réserve qu'ils n'aient pas ça. Parce que je pense que maintenant, les enfants qui vont avoir été harcelés sur le net, eh ben, ils vont avoir plus de mal à trouver des métiers par le net, parce que ça va leur rappeler de très très mauvais souvenirs. Donc voilà, donc en termes de conséquences, on a des conséquences immédiates avec une perte de capacité à apprendre. Donc un risque donc de redoubler ou de perdre des chances si c'est pour une orientation, le risque d'être déprimé, de faire des tentatives de suicide, de développer des phobies sociales et de transmettre ça à la génération d'après. En termes de statistiques, c'est les tentatives de suicide, ça multiplie par 4 les tentatives de suicide à l'adolescence, ça multiplie par 2 le risque de phobie sociale à l'âge adulte, et un harcèlement entre 8 et 10 ans multiplie par 2 le risque de stress post-traumatique à l'âge adulte. Donc c'est des chiffres extrêmement importants et qui, bon, ça montre toutes les conséquences. Donc si on arrive à faire jouer les spectateurs très vite et que ça s'arrête, eh bien les conséquences sont vraisemblablement moindres. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut travailler sur les spectateurs. Donc il y a eu plein de programmes qui ont été faits. Il y a les ambassadeurs, les médiateurs, etc. Moi, je serais partisan du fait qu'on ne désigne pas d'emblée, mais ça c'est ma position de pédopsychiatre, qu'on ne désigne pas d'emblée des enfants qui sont là pour régler les conflits, parce que ça les met dans des positions particulières dans le groupe. Alors ça peut être intéressant, mais c'est aussi un peu risqué. Hein. Ils peuvent à leur tour devenir harcelés, parce qu'ils sont dans des positions où c'est eux qui doivent régler les conflits. Hein. Et puis on peut s'en passer en disant, on va se débrouiller pour faire ça dans son dos. Voilà. Donc moi je pense qu'il faudrait que les enfants s'auto-désignent, ayant tous été formés, et s'auto-désignent pour, quand ils le sentent, intervenir, et que surtout que les adultes les écoutent quand ils vont se plaindre aux adultes. Voilà, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. C'est vraiment un travail qu'il faudrait faire. Et puis, faire des actions de prévention, en effet, qui sont extrêmement importantes, avec tout simplement des jeux de rôle pour faire sentir, au fond, au spectateur, à la victime, à celui qui harcèle aussi. C'est important aussi de pouvoir faire sentir aussi le sentiment de puissance qu'on a pour humilier l'autre, etc. C'est important, et de pouvoir après en parler. Alors, ça peut être des théâtres, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être dit différentes sortes de choses, mais c'est vraiment extrêmement important. Donc l'idée, c'est un petit peu celle-là. Le problème, une fois que j'ai dit ça, ce ne sont pas les enfants. Les enfants, moi, dans tout ce que j'ai vu, sauf des situations très très pathologiques, et sauf les situations où il y a eu des attaques d'ordre sexuel, où là, c'est compliqué d'arriver à laisser les enfants ensemble. Mais quand on enlève ça, j'ai toujours réussi à laisser les enfants ensemble. Le problème, ce sont les adultes. Le gros problème dans ces situations-là, ce sont les adultes, c'est-à-dire que les adultes, ils ont une idée bien arrêtée, il faut punir, sanctionner, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est quasiment la loi du talion. Alors on peut comprendre, quand on a touché à un cheveu d'un de nos enfants, on n'est tous pas très, pas très raisonnables. Hein. On a envie que ça fasse vraiment très, 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 très mal. Sauf que ça ne sert pas à grand-chose, parce que ce qu'on veut, c'est que ça n'arrive plus. Et en effet, si on donne une sanction démesurée, une fois qu'elle sera passée, l'enfant va dire « Ok, c'est fini, la prochaine fois, je ne me ferai pas attraper. » Ça ne fait pas réfléchir l'enfant. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à réfléchir. Il faudrait que les parents arrivent aussi à faire ça, et ça c'est très compliqué, parce que les parents ont été touchés dans leur chair, et là vraiment, la difficulté qu'on a tous, c'est avec les enseignants et avec les parents. C'est pas avec les enfants. Les enfants, franchement, quand on est dans ce créneau-là, je le répète, des situations pas forcément pathologiques, je le répète, je prends des précautions, c'est ce qui se règle plus facilement, franchement. Mais les adultes, c'est jamais facile. Quand vous mettez les adultes ensemble dans le bureau d'un principal ou autre, ils s'invectivent pendant 20 minutes quand ils sortent pas de la salle en disant « j'en ai assez », ils vont porter plainte, ce qui sert pas à grand-chose, et ils changent d'établissement scolaire sans avoir les précautions que j'ai dites tout à l'heure, c'est vraiment très compliqué. Donc le gros problème, ce sont les adultes. C'est vraiment les adultes. C'est pas tellement les enfants. Les enfants, quand vous les prenez et que vous leur dites, bah, alors, attends, ok, tu as traité un tel de baleine, etc., ok, parce que il est gros, etc. Mais alors franchement, en faisant ça, tu pensais qu'il allait se passer quoi ? Qu'il allait maigrir dans la nuit ? Je peux pas, moi. Que le lendemain matin, il allait perdre 20 kilos ? C'est faire prendre conscience au fond à ce qui a gêné l'autre et se mettre aussi un peu à la place de l'autre. Au fond, est-ce que franchement, comment l'autre a pu recevoir ça ? Et ne fût-ce que ça, quand on dit, mais qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer ? Enfin, franchement. C'est-à-dire, quand on sort de la punition, c'est pas bien, pourquoi tu as fait ça, etc. Parce que pourquoi tu as fait ça ? Bah, il va vous dire, je sais pas trop. Hein. C'est logiquement, tout enfant normalement constitué va pas répondre. Hein. Va dire, je sais pas trop, c'est pas moi, c'est les autres, j'ai fait comme les autres, j'ai suivi les autres, c'est pas moi qui ai commencé. Voilà. C'est logique, ils veulent s'éviter une sanction. Mais si on les fait réfléchir en disant, attends, on n'est pas là pour donner une sanction, moi j'aimerais juste te faire réfléchir. Tu pensais qu'il allait se passer quoi ? C'est-à-dire, décalé. On n'est pas dans. Tu as fait ça, donc je te donne ça comme punition, mais au fond, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Voilà, c'était quoi ta motivation ? Et moi, j'aimerais juste comprendre, et franchement, est-ce que tu pensais que... tu t'attendais à ce qu'il se passe quoi après ? Voilà, tu pensais qu'il allait se passer quoi une fois que tu avais fait ça ? Et quand on arrive à travailler sur les enfants, au début, vous dites, je ne sais pas trop, mais c'est pas moi, etc. Et quand on leur dit, attends, il n'y aura pas de punition, il n'y aura pas de sanction, on ne te punira pas. Donc on les rassure, hein. Et au bout de 10 minutes, ils commencent à vous dire, bah oui, non, franchement, c'est vrai que, voilà. Et on arrive à faire discuter les enfants et finalement à dire, bah c'est vrai que ça me gêne parce que, voilà, parce que, etc. Et on arrive à faire discuter les enfants et quand on a discuté, on arrive à trouver quelque chose de réparateur. Il faut faire une justice réparatrice, hein. Il faut leur dire, c'est pas bien, l'autre a souffert, qu'est-ce que tu peux proposer ? Voilà. Et on les accompagne parce que souvent, ils proposent des choses qui sont démesurées dans l'autre sens aussi, hein. C'est tout aussi, la réparation qu'ils proposent est tout aussi démesurée que ce qu'ils ont fait. Des fois, on leur dit, non, attends. Ça peut-être qu'on va faire ça sur une semaine, ça suffira. Hein. C'est pas sur toute l'année. Tu veux faire ça sur l'année, c'est trop long. Hein, on va faire ça sur une semaine. Voilà, c'est-à-dire qu'après, il faut que l'adulte aussi gère ça. Mais ça se passe relativement bien avec les parents, rarement. Les parents continuent à pas se parler, continuent à se faire des insultes et ça se passe rarement bien. Donc le gros problème, ce sont les adultes. Et ça, j'ai pas encore trouvé la solution, à part essayer de faire des groupes de parents, mais c'est compliqué. Les parents de victimes, on en a, des parents de harceleurs. Aucun parent n'a envie de considérer que son enfant est un harceleur. Hein. Aucun. Et pourtant, et j'en finirai juste là-dessus, simplement pour vous dire que pourquoi au fond on devient harceleur ? Eh bien, c'est parce que il y a une différence chez l'autre qui nous dérange. Il y a une différence qui nous paraît insupportable. Et on sait que dans les périodes de construction de la personnalité, eh ben, on n'est pas tout à fait capable de voir ce gris dont je parlais tout à l'heure, cette nuance dont je parlais. On n'en est pas capable. On a besoin pour se construire du tout blanc, tout noir. Le gris, ça viendra après avec l'expérience de la vie. Mais à cet âge-là, quelque chose qu'on ne sait pas situer, ça nous angoisse. On a besoin de dire, c'est là, il est là, ou il est là. Mais entre les deux, ça c'est pas, on ne peut pas se construire avec un entre les deux. Et il faut savoir connaître ça chez les enfants. Ce n'est pas de leur faute s'ils réagissent comme ça. En revanche, c'est de notre faute si nous, les adultes, on ne leur permet pas de réfléchir à ça. En disant, je ne te fâche pas, je te fais réfléchir à ce qui s'est passé. Après, on discutera en effet de la sanction réparatrice. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas pour te punir simplement, mais c'est pour réparer. Au fond, qu'est-ce que tu pourrais proposer ? Parce que tu lui as fait du tort, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer pour réparer ? Mais l'idée, c'est, voilà, on va pas, c'est pas normal que tu aies fait ça, mais on peut le comprendre. Hein, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas normal, mais on peut le comprendre. Et si on le comprend, ça veut dire qu'on peut trouver une réparation à ça. Voilà. Et c'est pas la loi du talion. Hein, c'est pas il t'a fait ça, je te fais ça. C'est au contraire quelque chose qui aura du sens pour toi et pour la personne à qui tu as fait ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc la plupart du temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui met l'enfant à mal et qui fait que ces enfants en cours de construction de personnalité, ce qu'ils voient chez l'autre, c'est comme si ça pouvait leur sauter dessus à eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment... comment dire, leur personnalité n'est pas encore suffisamment structurée pour qu'ils se disent « lui c'est lui, moi c'est moi ». Il y a une espèce de flou, ça pourrait m'arriver à moi aussi, voilà. Et au fond, mais pourquoi il est gros celui-là ? Pourtant, à la cantine, il ne mange pas forcément beaucoup, comment il a réussi à être gros ? Et si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce qui se passerait ? Et voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre d'un flou identitaire qui fait que oh, c'est pour ça que c'est pas possible. Je mets ça loin pour que je n'ai plus à me poser cette question de l'identité. Et c'est ça le vrai problème du harcèlement. C'est ce que je vois chez l'autre, c'est pas quelque chose qui lui appartient et qui est à lui et qui me sautera pas dessus, mais dans cette période de construction d'identité, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est 8-16 ans. Eh bien, ça pourrait m'arriver à moi et je ne sais pas bien comment je réagirai. Et donc, la meilleure manière, je projette à l'extérieur, ça ne m'arrive pas. Et en plus, je fais disparaître la personne, comme ça, je suis sûre que je ne verrai plus cette chose-là qui m'angoisse terriblement. Donc, je la fais disparaître. Et quand on lui dit, mais attends, tu as pensé aux conséquences de ce qui allait se passer, ben, ils vous disent, non. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est projeter mon mal-être à l'extérieur, sur l'autre, et je ne veux plus en entendre parler. Et je ne veux plus, moi, être malheureux. Parce que ces enfants-là sont en cours de construction de leur personnalité. Et s'il n'y a pas des adultes qui leur disent « Attends, c'est normal que tu sois mal à l'aise. Jusque-là, on est d'accord. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que tu réagis de cette manière-là. » Donc, reconnaître l'émotion chez l'enfant pour qu'il puisse la travailler. Mais en revanche, lui dire « Tu vois, il y a d'autres manières de travailler ça. Quand on est mal à l'aise, eh bien, on peut en parler, on peut en discuter avec les copains, on peut aussi en discuter avec les adultes, demander ben pourquoi ils sont gros, pourquoi il y a des gens qui sont gros, c'est uniquement parce qu'ils mangent beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On pose les questions aux adultes et on essaie de se faire une opinion là-dessus. Mais on a le droit d'être mis mal à l'aise par quelqu'un, on n'a pas le droit de s'en prendre à lui parce qu'il nous met mal à l'aise. C'est ça qu'il faut dire aux enfants, parce qu'à partir de là, ils peuvent parler de leurs émotions. Raconte-nous tes émotions. C'est pas parce que tu vas nous dire qu'on va t'absoudre, pas du tout. Et tu auras une sanction, une punition. La punition, il faut qu'elle y soit, c'est une évidence. Il faut lui dire, dans la vie, en société, on doit apprendre à gérer nos émotions quand elles gênent l'autre. On a le droit de laisser parler ses émotions quand elles ne gênent pas l'autre. Mais quand elles gênent l'autre, il faut apprendre à les gérer. Donc, parle-nous de tes émotions, mais après, on va te sanctionner parce que quand même, tu n'as pas su. Donc, la sanction, elle n'est pas faite. Elle est faite aussi pour que tu te rendes compte que tu peux faire mal à l'autre. Voilà. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut pouvoir faire. Alors, je peux comprendre que des enseignants, pas formés, j'entends bien, ne soient pas capables de faire ça. Mais on ne leur propose pas de faire ça tout seul. On propose de faire ça en binôme, des gens qui sont plus formés, comme les médecins éducation nationale, les psychologues, etc., etc. Le problème, c'est que malgré ça, ils ont du mal à comprendre encore souvent, pas tous, hein, je ne veux pas généraliser non plus, je veux simplement expliquer le fait qu'il y a si peu de gens qui s'inscrivent dans ces formations, c'est juste ça que je veux dire, hein, je ne fais pas un lot de tout le monde. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas devenus enseignants pour ça, ils sont enseignants surtout au collège pour enseigner une matière qui leur tient à cœur, qu'ils aiment beaucoup et qu'ils veulent faire partager, voilà, ou ils sont enseignants parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses aux enfants, d'apprendre les fondamentaux, et pour eux ça ne fait pas partie de ça. Donc il faut qu'ils soient aidés par d'autres personnes de l'éducation nationale et peut-être même d'autres structures, hein, comme les CMP, les CMPP, des gens libéraux, etc. Mais voilà, il faudrait quand même que les adultes se rendent compte que ce n'est pas seulement un risque, le harcèlement, mais c'est une vraie chance. Je terminerai là-dessus, c'est une vraie, vraie chance, parce que ça permet de parler du vivre ensemble, de la citoyenneté, de la différence, de « oui, on est dérangé par la différence de l'autre », eh bien oui, c'est normal d'être dérangé, mais on n'a pas le droit de faire passer notre malaise sur l'autre. Mais oui, on a le droit d'être dérangé, ben c'est comme ça qu'on réfléchit aussi. Si on n'est pas dérangé, ça veut dire que tout le monde nous est indifférent et qu'on ne regarde même pas l'autre. Ben, ce n'est pas bien de ne pas regarder l'autre. On a besoin de regarder l'autre et de dire ben, il n'est pas pareil. Après, ce qui est compliqué, c'est de mettre une hiérarchie en effet de valeur. Alors, on en a tous une dans notre tête, bien sûr, mais de s'en prendre à l'autre parce qu'il n'est pas conforme à notre hiérarchie, ça, on n'a pas le droit. Donc, je pense que c'est une belle cause, le harcèlement, et que le ranger uniquement dans la violence, moi, c'est la seule différence que j'ai avec Éric de Barbieu, on en a longtemps parlé, je lui ai dit, tu vois, moi, je ne voudrais pas qu'on le range dans les violences, parce que si on le range dans les violences, on va avoir des sanctions, des choses uniquement pénales. Et on sait que la justice, eh ben, elle est tellement embouteillée qu'elle va hiérarchiser les choses les plus graves aux choses les moins graves, et pour la justice, le harcèlement, ce n'est pas grave. Donc ça ne sera jamais pris en compte. Et je vous assure que déposer une plainte et savoir que c'est classé sans suite, de mon point de vue, c'est pire. C'est pire que ne pas avoir porté plainte. Donc je pense que c'est vraiment, c'est un débat citoyen. Et donc moi, je le, entre guillemets, sortirai de manière un peu, vous l'avez compris, bon, c'est un peu une tournure de style, hein. Je le sortirai simplement de la violence en le remettant dans le développement. Dans ces périodes-là, 8 ans, 16 ans, on est d'accord, hein. Après, je le remettrai dans les violences, on est d'accord aussi. Mais dans cette période-là, moi, j'ai envie de le garder dans le développement, parce qu'à ce moment-là, on peut impliquer tous les acteurs et pas seulement les psys, parce que c'est tout de suite, on se précipite chez le psy. Et moi, je pense qu'il y a aussi l'école, la société qui peut prendre ça en charge. Et donc, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Je vous remercie. Voilà.